France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Il est tellement compliqué à trouver ce mouton à cinq pattes que semble-t-il Jean Castex fait bien de changer son billet de train pour Prades. Il y aura apparemment un nouveau conseil des ministres mercredi prochain. C'est sûr, c'est difficile, on cherche donc un mouton avec une patte sociale, une patte écolo, une patte productive, une patte à gauche, la dernière à droite. Vous avouerez avec moi que ça ne doit pas être pratique pour marcher. Le ou la nouvelle patronne du gouvernement doit aussi incarner ce dépassement auquel croit le président. Il a ajouté hier, la couleur politique ne dit pas tout. C'est-à-dire qu'on cherche éventuellement pas de couleur politique du tout, ou un caméléon capable de changer de couleur au contact d'une Assemblée nationale qui, si elle reste favorable au président, donc s'il garde le choix total de son Premier ministre, sera plus teintée que la précédente. La figure, en tout cas, devra être consensuelle, c'est le minimum. Donner un effet surprise, c'est peut-être mieux, probablement une figure de terrain, ce qui manque à la Macronie, à moins qu'on se plante totalement et qu'on finisse avec un ancien ministre récompensé pour sa fidélité. Faute d'être dans la tête d'Emmanuel Macron, beaucoup de noms ont déjà été lâchés ici et là. On va tâcher de faire le portrait robot de cet homme ou de cette femme. Ce soir, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Guy, vous êtes dans l'Yonne et c'est tant mieux, c'est vous le premier. Bonsoir.
Merci pour votre qualité d'émission. Effectivement, c'est un mouton à cinq pattes, même qui sont, je dirais, presque à mille pattes, parce qu'il y a tellement de problèmes. Pour ma part, je pense que monsieur le président doit faire un Macron 2 différent du Macron 1 et des institutions de la République 5e. C'est que le président décide et le Premier ministre met en musique. Et là, par exemple, avec Mélenchon, ça va pas se faire, c'est sûr. Ça durera pas longtemps. On va au clash. Avec maintenant, je pense qu'il va sûrement se diriger vers un homme. Alors, vous avez dit effectivement avec les Chines assez souples, consensuelles et sociales. Parce que s'il recommence à nous passer la retraite à 65 ans de force avec l'article 49, etc., comme avait fait son Édouard Philippe, ça ne dira pas du tout, du tout. Voilà, je souhaite qu'il réfléchisse à tout ça.
Eh bien, écoutez, il vous a entendu peut-être, allez savoir. En tout cas, nous, on a entendu et ce sera une jolie entrée en matière pour cette émission pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Raphaël Baquet est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au Monde. Vous avez écrit en son temps L'enfer de Matignon. On verra d'ailleurs si ça a été un enfer cette fois aussi. Pascal Perrineau est là également. Bonsoir. Vous êtes
bonsoir.
Politologue, professeur des universités à Sciences Po. Et puis, Yael Gauss, bien sûr, chef du service politique.
Bonsoir,
de
Fabienne.
France Inter. C'est marrant comme le Premier ministre social revient tout le temps. Alors, effectivement, ça a été aussi prononcé par Emmanuel Macron. Mais est-ce que les gens qui nous écoutent, et notamment Guy, font une confusion? Est-ce que social, ça veut forcément dire à gauche? Voilà, je vous vois tous les trois faire non avec la tête. Et peut-être que c'est même la première chose à éclaircir, on va dire.
Le président de la République avait lui-même sa propre lecture cet après-midi, puisqu'il disait Monsieur Castex, qui
absolument
est un homme de droite, a mené pendant qu'il était à Matignon une politique, une politique sociale, et on l'a vu en effet au moment du confinement.
Qui est assez spécieux puisqu'on était en pleine période de confinement, donc
voilà,
ça rend
voilà
les choses un peu.
Oui, mais on voit bien quand on compare la politique mise en place par le gouvernement français par rapport à d'autres gouvernements en Europe, c'était un gouvernement qui avait en effet une fibre sociale évidente et qui n'avait pas peur de mettre à mal les grands principes du libéralisme ou l'ultralibéralisme en la matière. Et d'ailleurs, peut-être que dans le succès d'Emmanuel Macron, il y a un retour sur investissement et une partie d'électeurs se sont dit, au fond, dans cette période redoutable du Covid, le pouvoir, après avoir beaucoup hésité au début, s'est assez bien débrouillé et on lui en sait gré. Hein, et dans les 58% d'Emmanuel Macron, il y a peut-être une partie d'électeurs qui, au fond, ont été satisfait et convaincu. Cependant, par rapport en effet à ce que vient de dire l'auditeur, c'est-à-dire d'abord quelqu'un qui aura les chines souples, en effet, il faut qu'un Premier ministre ne cherche pas l'affrontement avec le président qui reste tout de même le patron. La dimension sociale, parce que les grands dossiers sont des dossiers sociaux, et puis dans la nouvelle méthode, il faut espérer qu'il y a un peu une nouvelle méthode sociale, un peu plus sociale qu'auparavant, en particulier avec les acteurs syndicaux, et Laurent Berger, le patron de la CFDT l'a couché sur le papier dans un papier du Monde. Mais il y aura aussi la capacité à emmener la majorité ou les forces qui en tiennent, qui soutiennent le président, à la victoire législative fin juin.
Et c'est ça la quadrature du cercle, peut-être Raphaël Baquet, il faut trouver l'homme ou la femme qui effectivement emmène, qui ne braque personne tout de suite, mais qui puisse anticiper sur une Assemblée nationale qui sera peut-être probablement moins claire que celle qu'a trouvée Emmanuel Macron il y a 5 ans.
En fait, la réalité, c'est qu'il est possible que nous ayons 2 premiers ministres successifs.
Un dans chaque poste.
Parce que c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Donc, il va falloir d'abord choisir un premier ministre maintenant, enfin dans les jours qui viennent, et qui pourra aller jusqu'aux législatives. Et puis, en fonction du résultat des législatives, parce que faut pas oublier que la nomination du Premier ministre, c'est quand même le produit d'une analyse politique de ce qui va se produire dans ces fameuses législatives. Et à ce moment-là, votre auditeur dit « avec Jean-Luc Mélenchon, ça n'ira pas ». Oui, ça c'est vrai. C'est deux caractères et deux politiques tout à fait incompatibles. Mais si la France insoumise avait la majorité, bon, ce qui est quand même peu probable. Mais si jamais c'était le cas... Eh bien, Jean-Luc Mélenchon s'imposerait.
Alors là, de toute façon, ça c'est sûr, il faudrait de toute façon aller trouver le Premier ministre parmi la majorité. Et est-ce qu'on peut imaginer une espèce de figure qui serait suffisamment consensuelle pour que, si on considère que la majorité est toujours dans le camp d'Emmanuel Macron, mais moins franche qu'elle l'a été, d'ores et déjà, il fasse une sorte d'unanimité qui fera que ça peut couper l'herbe sous le pied d'un certain nombre d'électeurs à gauche, peut-être, Yael Gauze ?
Quelqu'un qui ne soit pas du pur sérail en marche, c'est ça que vous voulez dire, Fabienne ?
Par exemple,
oui. Oui, ça ouvre énormément de profils potentiels. D'ailleurs, on voit que chaque jour qui passe, la liste des noms comme ça lancés dans la nature, des rumeurs,
s'allonge. En général, que les premiers noms sortis ne seront jamais les élus.
Dernières nouvelles, vous avez même eu un démenti sur France Bleu il y a 2 heures de Carole Delga, la présidente de région Occitanie, dont le nom d'un seul coup revenait par des déjeuners en ville de marcheurs qui se disaient que ça pourrait peut-être elle. Donc on est dans cette période un peu toujours un petit peu folle où le président a déjà son idée en tête. La personne qui sait qu'elle a Matignon le sait sans doute déjà pour se préparer.
Vous pensez qu'il le sait déjà ?
Moi, je pense que la personne qui doit se préparer le sait déjà.
Ah ouais.
Voilà. Mais je vous dis, je pense que
c'est
ça n'est pas une information.
Dans l'histoire,
ça n'est pas une information. Quant à la question précédente de l'auditeur sur le profil du Premier ministre, on apprend aussi en marchant, c'est-à-dire que c'est pas forcément tout de suite qu'on sait maîtriser une majorité.
Avec cette expression, Yael.
Jean Castex n'était pas du sérail du tout de la majorité. Il a d'ailleurs jamais pris sa carte à En Marche. Il est nommé, on est tous un peu surpris, et puis il va finalement se frotter aux us et coutumes de l'Assemblée, aux règles de sa majorité, aux bisbilles avec Édouard Philippe. Ça se fait, la fonction se fait aussi en faisant.
Mais Jean Castex était un technicien, en fait. Et il a été nommé en tant que technicien, et précisément parce qu'on a en face un président qui prend toute la place. Est-ce qu'il faut rééquilibrer aussi ce rôle entre le Premier ministre et le président, à votre avis, Pascal Perrineau, ou pas ?
Oui, il y a des rééquilibrages dans cette nouvelle méthode que le président appelle de ses voeux, qui passera à l'acte. Il y a des rééquilibrages qui sont exigés. Il y a un rééquilibrage entre le « et » de droite, qui a été très présent, et le « et » de gauche, qui l'a moins été. Et ça, c'est évident, parce que on a tout de même un président, quand vous regardez le résultat du premier tour, c'est un président de droite. Sur 100 électeurs de Macron, plus des 2/3 se positionnent à droite. C'est-à-dire que sa base est un électorat de droite, et il faut qu'il rééquilibre dans son souci...
plus et retraité.
Voilà, dans son souci de synthèse. Donc, il faut qu'il rééquilibre également dans le mode de fonctionnement. Je sais que ça va être très difficile quand on a un tempérament jupitérien, pour reprendre ces catégories, d'être sensible tout de même à la nécessité un peu d'un contrepoids dans l'exécutif. Les Français demandent à ce que la seconde présidence Macron soit moins verticale que la première. C'est évident, la demande est là. On le voit dans un sondage où les Français disent à 60% voudraient une cohabitation. Ben, on voudrait que Macron apprenne à cohabiter d'abord, à commencer davantage avec sa majorité.
Même à l'intérieur de son propre camp.
Mais bien sûr, même à l'intérieur de son propre camp. Et donc, pourquoi pas nommer une personnalité politique, et une personnalité politique un peu forte, qui ne fasse pas d'ombre, bien sûr, ça c'est pas envisageable.
Mais... Il y a des candidats déclarés. François Bayrou s'est déclaré comme étant celui qui pouvait coller à cette fiche de poste.
Seulement un problème de caractère, quand même. C'est un problème d'institution. À vrai dire, un Premier ministre hors cohabitation, qui soit très fort et qui existe vraiment quasi à égalité avec le président, sincèrement,
ça n'existe
pas.
Ou ça s'est mal passé. Emmanuel Valls, François Hollande.
Ou Mitterrand-Rocard. Vous voyez, donc c'est des cohabitations à l'intérieur d'une majorité et ça se passe mal. Donc en réalité, et plus encore depuis ces 20 dernières années, si vous voulez, Nicolas Sarkozy l'avait carrément théorisé avec son Premier ministre collaborateur, c'est vrai que le Premier ministre, il est quand même très très nettement en dessous du président.
Et d'autant plus avec le profil Castex, parce qu'on a lu dans les journaux qu'on cherchait un Castex au féminin même, il est arrivé qu'on lise ce genre de choses. C'est pas lui faire injure, c'est pas un ambitieux Jean Castex, c'est pas quelqu'un qui avait pour lui une vision pour un après, au contraire, on a plutôt le sentiment qu'il va rentrer chez lui tout simplement, et c'est finalement assez inédit, non, comme portrait de Premier ministre ou pas, Raphaël Baquet, ce technicien pas très ambitieux
qui est même inconnu.
Inconnu, et qui n'est même pas le paratonnerre habituel, puisque effectivement, les coups, au fond, c'est là, en tout cas, dans les deux ans Castex, c'est plutôt Emmanuel Macron qui les a pris.
Oui, c'est même très rare, parce que jusque-là, même des non-professionnels de la politique, il n'y en a pas eu beaucoup, enfin, ce que n'est pas Jean Castex, mais il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était quand même des hommes comme Raymond Barre qui avaient été ministres déjà avant. Lui, il est arrivé, il était absolument inconnu du grand public. D'ailleurs, même les journalistes le connaissait à peine. Donc, c'est un profil tout à fait particulier, mais c'est un profil qui raconte l'époque aussi. C'est-à-dire que, effectivement, on a un président tellement dominant, et peut-être que c'est pas seulement lié au caractère d'Emmanuel Macron, mais à l'évolution des institutions, que, effectivement, on peut ravoir un Premier ministre de cet acabit, si je puis dire. Mais ça pose un problème parce que ça voudra dire très clairement que, effectivement, Emmanuel Macron ne change pas sa façon de présider.
Et société civile ou ex-société civile, ou en tout cas avec un profil un peu sur deux jambes qui soit pas un réel politique, est-ce que c'est toujours une espèce de fausse bonne idée, ça,
oui,
Pascal Perrineau?
Oui, puis surtout que, bon, on l'a vu, c'est vraiment la fausse bonne idée. On l'a vu avec la fameuse société civile que la majorité de l'époque, en 2017, appelait de ses voeux, avec le groupe parlementaire LREM. C'est une société civile très particulière. L'Assemblée nationale n'a jamais été aussi bourgeoise que l'Assemblée nationale élue en 2017. Donc c'est une partie de la société civile bien particulière, avec une surreprésentation des métiers du Conseil. Enfin, c'est tout à fait particulier. Et en plus de ça, ça n'a pas été une franche réussite, parce que énormément de députés, 6 mois après, disaient « Oh mon Dieu, que c'est ennuyeux, le métier de député ». Donc ils ont été assez peu convertis.
Je trouve un peu dur, c'était l'Assemblée la plus féminisée, hein, quand même, de la 5e.
Oui, peut-être, oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça a été plus représentatif, en effet, en matière d'équilibre des genres. Mais à part ça, véritablement, ça n'a pas été une franche réussite. Ça a été une assemblée où, tout de même, les députés macroniens avaient le doigt sur la couture du pantalon, et puis pour ceux qui n'avaient pas le doigt sur la couture du pantalon, ils finissaient au non-inscrit.
Il y a d'ailleurs pas mal d'abandons. Hein.
Oui.
Ce qui est rare, finalement.
Ce qui est très révélateur.
On verra non seulement, les abandons, et surtout ceux qui rempilent et qui sont réélus, effectivement, qui désormais donc ont pris de la bouteille ou n'en ont pas pris. L'ancrage local, Yael Gauss, c'est précisément la jambe qui manque à la Macronie de toute façon. Donc est-ce que c'est... Et les deux successifs, on peut au moins dire ça, à la fois
Édouard
Philippe et Jean Castex avaient leur ancrage local.
Oui, parce que c'était le complément dont avait absolument besoin Emmanuel Macron. Lui qui cherche à montrer qu'il est de quelque part. Il va passer la journée de demain dans les Hautes-Pyrénées pour aller rendre hommage à sa grand-mère, sur la tombe de sa grand-mère à Montgaillard. C'est aussi pour dire, je viens de quelque part, je suis ancré. Les Pyrénées, Hautes-Pyrénées, c'est quelque part mon enfance, c'est moi, je viens de quelque part. Amiens, on n'a pas trop associé à Amiens Emmanuel Macron. Donc il cherche des premiers ministres qui sont
ancrés. Parce qu'il est parti, en fait, il y a eu quelque chose d'une fuite, donc on n'y revient pas.
Jean Castex, c'est Prat, l'Occitanie, bien sûr, et l'accent, et même le style, c'était le contrepoint parfait pour Emmanuel Macron, pour montrer qu'il pouvait aller chercher d'autres Français, d'autres électeurs. 341 déplacements, quasiment un jour sur deux pour Jean Castex, c'est un record à Matignon en termes de sortie extérieure de Matignon. Ça a fonctionné aussi pour ça, parce qu'il avait ce rôle-là, ne pas du tout être le complément parisien d'Emmanuel Macron, mais être celui qui allait faire le VRP de la politique dans les régions, dans les départements. Donc l'ancrage, oui, bien sûr, très important, il va y avoir cet enjeu-là. Mais alors, pour la macronique dont on parlait, l'ancrage passe de plus en plus par la recherche de mairie. Oui. C'est ça qui a changé aussi. Le député n'est plus forcément à la recherche de ça.
Il vaut mieux avoir un fief municipal. Mais c'est ça que je trouve intéressant, voilà. Parce que les noms qui ont circulé, Elisabeth Borne n'a pas d'ancrage, Julien de Normandie n'a pas d'ancrage non plus, sont les noms qui reviennent le plus souvent.
N'était pas député,
c'est d'ailleurs ce qui les disqualifie dans la course actuelle.
Édouard Philippe n'est pas sûr de vouloir devenir député du tout. Il est maire du Havre, il est très bien maire du Havre.
Emmanuel est avec nous au standard. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
On vous écoute Emmanuel.
Alors moi ce qui m'inquiète, bonsoir à tous.
Moi ce qui m'inquiète c'est qu'on ne vous entend pas Emmanuel.
Voilà, je vous appelle ce matin, moi j'aimerais qu'on ait un Premier ministre ou une Première ministre qui arrive à apaiser notre pays. Parce que ce matin sur votre antenne il y avait Monsieur Ruffin qui disait qu'ils avaient gagné. Marine Le Pen dit qu'elle a gagné. Tout le monde a gagné, sauf qu'il y a un président qui a gagné. Alors, c'était pas forcément mon préféré, mais peu importe. Mais maintenant, il va falloir que tout le monde s'apaise dans notre pays. Parce que sinon, moi, je suis artisan, j'ai 2 salariés, je suis pas une grosse multi-entreprise, mais j'ai besoin qu'on travaille et qu'on soit dans le calme. Mais dans le calme, alors on a la guerre en Ukraine, on va avoir des problèmes, il va falloir que tout le monde se détende, parce que là, tout le monde a gagné, mais à la fin, nous, moi je suis pas caissier, je suis pas des petites mains, honnêtement, je gagne très bien ma vie, mais je fais aussi gagner à mes salariés de l'argent, il va falloir que tout le monde se détende, parce que là, on est dans un pays sous tension, quoi. Il va falloir que cette tension, elle retombe, alors que ça soit un Premier ministre, parce qu'on sait que c'est des Premiers ministres qui font bouler, alors je sais pas comment on dit, il va falloir que tout le monde se calme.
Et on entend ce que...
Et les hommes politiques aussi derrière, et les journalistes.
Tout le monde se calme, alors visiblement.
Permanente, il va falloir que tout le monde se détende pour qu'on arrive à vivre. Parce que là, il n'y a pas que le problème des pouvoirs d'achat. Parce que le pouvoir d'achat,
Emmanuel,
moi, je ne crois pas 2 secondes.
On a entendu ce que vous nous disiez, pardon de vous interrompre Emmanuel, mais il y a du monde et c'est la voie du bon sens, Emmanuel. Oui. L'idée qu'il faut être apaisé, il faut que tout le monde respire par le ventre un petit peu.
La voie du civisme. Il faut tout de même rappeler qu'on est une communauté de citoyens où nous avons des adversaires, mais on n'a pas d'ennemis. Et c'est vrai que parmi les forces qui ont remporté à différents titres des succès, je pense à Marine Le Pen, mais aussi à Jean-Luc Mélenchon. On a des forces qui, à peine le dimanche électoral clos, entreprennent un procès en illégitimité de celui qui a tout de même gagné à 58% des suffrages exprimés, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, comme vient de le dire l'auditeur. Et il y a là un climat franco-français qui est particulier et que beaucoup d'autres démocraties en Europe ne connaissent pas à ce point. On a une sorte de guerre civile froide qui continue, entretenue par les deux extrêmes.
Est-ce qu'il sert de tampon aussi pour ça, Raphaël Baquet, le Premier ministre, précisément parce que il y a auprès d'un certain nombre de gens dans la population une vraie détestation du président. Il y a des mots qui sont très forts, qui ont été prononcés. Donc, est-ce qu'on se dit que précisément pour apaiser, le tampon c'est lui en fait, le good cop, bad cop, le good cop c'est le Premier ministre en fait, c'est ça qu'il doit chercher.
Généralement, il est même le bouclier du président de la République, parce que c'est lui qu'on conspue habituellement dans les manifestations. C'est lui qui porte les réformes et c'est lui qui porte la contestation de ces réformes. C'est vrai que plus le président est sur le devant de la scène, plus ce rôle de bouclier s'efface peu à peu. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs ces dernières années. Là, pour Emmanuel Macron, il a plutôt intérêt à prendre un Premier ministre qui rejoue quand même ce rôle d'interlocuteur privilégié pour à la fois la majorité parlementaire et l'opposition d'ailleurs, et aussi pour la rue qui peut se manifester.
Oui, moi j'ai une inquiétude parce que ce Premier ministre, il va dépendre évidemment des résultats des législatives. On va avoir un gouvernement de combat mis en place là pour 5-6 semaines de campagne. 12 et 19 juin, les Français votent. Si la participation est faible et si le camp perdant de la présidentielle se démobilise et que le camp macronien, lui, se mobilise très fort, alors on aura une assemblée de nouveau photos distordues par rapport à l'état réel du pays, à l'état réel politique du pays. À cause du mode de scrutin majoritaire, on connaît le phénomène. Donc qu'est-ce qui se passera? Ça sera un Premier ministre qui découlera de cette majorité peut-être décalée par rapport à l'état réel du pays. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que les Français vont voir dans ce Premier ministre? Est-ce que ce sera la bonne photo, le bon représentant? Bien sûr, oui, du point de vue des institutions, bien sûr, et il faut respecter les institutions, mais est-ce qu'ils auront le sentiment que leur voix aura été entendue, celle du premier tour de la présidentielle? Pas sûr.
Pascal Perrineau?
Oui, mais il ne faut pas oublier qu'un Premier ministre, un bon Premier ministre, c'est un homme ou une femme qui a la double confiance. La confiance, en effet, de l'Assemblée nationale qui le soutient, met en œuvre sa politique ou celle du président relayée par le Premier ministre, et qui a la confiance du président. Hein. Sans cette double confiance sous la cinquième, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas et c'est là où, en effet, j'entends bien, il faudra que cet homme ou cette femme représente la diversité du bloc majoritaire en espérant que, voilà, il n'y aura pas une abstention de 60%, hein, ce qui est possible. La dernière fois, c'était plus de 50%, hein, faut le rappeler. Et puis, il aura aussi, il sera porteur du projet du président. Le président nous dit tout de même depuis dimanche soir qu'il veut une nouvelle méthode, qu'il veut en effet réconcilier, être le président de tous les Français. Et bien sûr, la personnalité, qu'il veut parler au camp d'en face. Le camp d'en face, c'est le camp qui a voté Marine Le Pen. Donc la personnalité du Premier ministre devra représenter aussi cette nouvelle ambition du président, ou alors c'est de la com, mais là c'est dangereux.
Jeanne est à Brest. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir à vous tous. Oui, effectivement, je pense que la désignation du Premier ministre va être quelque chose de très difficile. Il est souhaitable que ce soit une femme, puisque lorsque l'on voit ce qui se passe dans les autres pays européens et même en Amérique latine, il y a beaucoup de femmes aux responsabilités. Mais il faut que ce choix se fasse dans le souci de respecter ce que les Français ont voulu dire. Nous ne voulons plus d'entre-soi. C'est-à-dire que la personne qui sera nommée devra parvenir par ses compétences et son attitude à apaiser les Français, à redonner confiance s'agissant de l'avenir des services publics. Nous avons des femmes qui ont une étoffe considérable. Au cours de la Ve République, nous avons eu des femmes tout à fait compétentes, depuis Simone Veil jusqu'à Michel Barzac et Madame Rachida Dati. Mais là où je suis inquiète, alors que l'on reprochait l'entre-soi à M. Macron, à une certaine arrogance, j'ai entendu ce matin évoquer le nom d'une femme qui a été membre du cabinet de M. Valls, qui est appointée par jeton de présence dans plusieurs entreprises. Il ne faudrait surtout pas...
À qui vous pensez, Jeanne?
Comment?
À qui vous pensez? Ah pardon.
À Madame Béag, qui est évoquée d'ailleurs dans un livre de Vincent Jauvert sur les cooptations entre corps de l'État.
Véronique Bédag, qui est haute fonctionnaire, directrice générale de Next City depuis près d'un an.
D'accord.
Exactement.
Ok. En même temps, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, Jeanne, à chaque fois que des noms sortent, en général, il y a assez peu de chances pour qu'ils soient derrière. Moi, je trouve ça intéressant ce que nous dit Jeanne sur le. Il faudra que ce soit une femme, Raphaël Baquet. Moi, il y a une chose qui m'a frappée.
Oui, il serait temps.
La première réunion qui a eu lieu après le deuxième tour, le premier conclave, c'était Emmanuel Macron avec Alexis Kohler, avec Castaner, avec Stanislas Guérini. Il y avait quelques ministres. Pardon de le dire comme ça, ça sentait terriblement la testostérone.
Les mormons, pas les mormones.
Ouais. Ah, bah, depuis le début, à vrai dire, effectivement, Emmanuel Macron dirige avec un entourage d'hommes. Et c'est un vrai problème. Hein. C'est évident. Même si, dans son gouvernement, en revanche, la parité est bien mieux respectée. Hein. Mais c'est vrai qu'il est temps d'avoir, pour la deuxième fois, sous la Ve République, une première ministre, et donc une femme. Après, ça ne change pas le reste du profil, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait quand même une forme d'assise politique. C'est pour ça que la crainte de Jeanne me paraît relativement peu fondée. Il faut trouver une femme, ou un homme, enfin bon, une femme qui ait une assise politique, qui est quand même un minimum d'expérience, sinon d'un ministère déjà au moins de l'administration, mm-hmm. hein, parce que, attention, si jusque-là, les énarques ont dominé, c'est aussi pour cette raison-là. Donc, ce n'est pas une obligation, bien sûr, et on peut parfaitement avoir une expérience politique, mais enfin, il faut qu'elle ait quand même le reste du profil, si je puis dire.
Il y en a, oui. Il y en a peu qui ont été cités quand spontanément on voit sortir des noms. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi, oui. Pascal Perrino, comme s'il n'y avait rien d'automatique, en fait.
Eh bien, il faut faire preuve d'imagination. Oui. Parce que l'idée française, où il y a cette espèce de passion de l'État et de la haute administration, c'est on se dit, tiens, on cherche quelqu'un de compétent, et hop, on se tourne vers les grands corps, les grands corps de l'État. Il faut savoir qu'il y a des tas de gens très compétents en dehors des grands corps de l'État. Il y a en particulier un nombre élevé de femmes qui sont mères et mères de grandes villes et qui ont une compétence de gestion aussi forte qu'un inspecteur des finances, par exemple.
Bien sûr.
Il faut faire, voyez, il faut casser un peu ces réflexes, cette espèce de culture étatique au mauvais sens du terme, j'entends, qui est très forte dans les élites en France. Il faut bien prendre conscience que la demande que ce soit une femme est tout à fait légitime, et la demande aussi que l'on sorte, ce qu'on a fait parfois d'ailleurs sous la Ve République, de l'éternel haut fonctionnaire, est légitime, parce que les Français sont un peu en colère contre leurs élites. Il faut prendre ça aussi en compte. Hein. Et là, on voit bien comment on aurait... Il y a eu comme Premier ministre Manuel Valls, il n'était pas sorti des grands corps. Il y a eu Monsieur Hérault, il n'était pas issu des grands corps. Et on pourrait prendre comme ça plusieurs exemples.
C'est très vrai, mais ils sont très minoritaires. Mmh. Mais oui, ça n'empêche pas qu'il faille changer. Voilà. Ils sont très minoritaires.
Et Cresson, d'ailleurs, qui était la première femme, n'était pas une femme issue des grands corps.
Je fais le pari qu'Emmanuel Macron ne pourra plus reculer sur ce profil féminin. Parce que ça a tellement été la bande-annonce du remaniement à venir qui aurait un effet déceptif tel que pour le coup il raterait sa première nomination et l'effet de souffle qui doit l'accompagner auprès des électeurs de la gauche notamment et du bloc Mélenchon.
Alors qu'est-ce qu'on dit de ce bruit qui a couru, dont je ne sais pas très bien d'où il a démarré d'ailleurs et qui parlait du retour de Nathalie Kosciusko-Morizet? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Est-ce que ça ressemblerait à un profil qui est un profil intéressant, quelqu'un qui a été très politique, qui en est parti, qui est revenu, qui fait des allers-retours dans une société civile qui est vraiment, pour le coup, là, si on veut sortir des élites, on n'y est pas.
Joker, elle ne dit ni oui ni non à New York, elle dit qu'elle ne commande pas la vie politique française. Après, c'est une femme étiquetée du quinquennat Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que c'est...
Comment dire? Et en même temps, du Grenelle de l'environnement.
Elle a un avantage, c'est l'écologie. Elle a un inconvénient, c'est que effectivement, c'est une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Puis elle ressemble un peu à Emmanuel Macron. Mmh. Donc,
vous
voyez, elle est dans un gros cabinet à New York. Elle a le même profil, sauf qu'elle est polytechnicienne, mais c'est un peu le même profil. Bon,
Pavel est avec nous. Bonsoir, Pavel.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Pavel.
Bonsoir, vos invités. Et ma question est très brève. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ne pas garder l'ancien gouvernement jusqu'aux élections législatives. Pourquoi changer de gouvernement juste pour 5 ou 6 semaines?
Eh ben, moi, je trouve que cette question est frappée au coin du bon sens. Est-ce qu'on peut répondre à cette question, Pascal Perrino?
Bien sûr, on aurait très bien pu garder Monsieur Castex, sauf si on considère que Monsieur Castex n'est pas un bon leader pour emmener les soutiens de la Macronie au combat. Ça mérite d'être discuté, hein, parce que Jean Castex s'est révélé dans sa fonction. Hein. C'est vrai qu'au début, il y avait une certaine condescendance, peut-être liée d'ailleurs à l'accent régional de Monsieur Castex, étant donné le centralisme culturel parisien qui est absolument exaspérant. Mais on aurait très bien pu adopter cette solution plutôt que de choisir de changer dans une semaine.
Mais ça veut dire qu'on veut que le Premier ministre, on veut donner à l'Assemblée la couleur du Premier ministre, on veut influer sur l'Assemblée avec ce Premier ministre, c'est ça que ça veut dire en fait?
Oui, il y a 7 semaines, hein, on l'oublie, mais il y a presque plus que 6 maintenant, c'est jamais arrivé, entre un deuxième tour de présidentiel et un premier législatif, un temps aussi long, donc il faut mener vraiment campagne, il faut vraiment quelqu'un pour l'incarner, pour embarquer, ça peut pas être Emmanuel Macron tout seul, puisque lui il est à l'Élysée, mais pour ce qui concerne Jean Castex, ça dure un peu plus longtemps que prévu. Au départ, il voulait faire sa valise le dimanche soir du deuxième tour,
et puis
en fait c'était
d'ailleurs
pas possible, tant que les résultats n'étaient pas n'est pas proclamé par le Conseil constitutionnel, c'est fait. Et là, on laisse entendre que ça pourrait durer encore peut-être une semaine. Il est possible qu'il y ait un nouveau Conseil des ministres, malgré le buffet du pot d'adieu d'aujourd'hui. Il a été dit par Emmanuel Macron, peut-être qu'on se reverra encore la semaine prochaine, s'il n'a pas trouvé la perle rare.
Mais alors, si c'est le cas, est-ce que c'est Raphaël Baquet parce qu'il n'a pas trouvé la perle rare, ou, comme on l'a compris, si ça se trouve, il l'a parfaitement trouvé, ou est-ce qu'il souhaite, exactement comme au présidentiel, raccourcir la campagne le plus vite possible pour qu'il y ait une espèce d'effet waouh sur le Premier ministre qui entraînera quelque chose avant les législatives, non?
Oui, c'est-à-dire que institutionnellement, pour répondre précisément à Pavel, il n'y a pas d'obligation. Jean Castex pourrait parfaitement rester. Mais politiquement...
Jusqu'au 13 mai, en fait, seulement.
Jusqu'au 13 mai. C'est-à-dire la fin du quinquennat, mais il pourrait être renommé juste pour...
13 mai minuit.
Mais c'est vrai que, politiquement, il faut donner l'idée que, quand même, le deuxième mandat n'est pas tout à fait le même. Sinon, vous avez l'impression d'avoir une continuité... Mais c'est vrai que c'est un problème très français, je dois dire. C'est que on va trop vite. Dans la plupart des démocraties européennes, on met plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à préparer le gouvernement. Donc, les ministres ont le temps de se préparer, de prendre connaissance de leur dossier, de se plonger dans les défis qu'ils vont devoir relever. Et évidemment, c'est beaucoup plus efficace que notre système qui consiste à tout changer en un clin d'œil.
C'est 2 mois aux États-Unis
et 6 mois
au Mexique, je crois.
Et regardez, dans les démocraties de consensus à l'allemande, ça peut durer 3 mois, 4 mois, le temps que le compromis puisse se faire. Donc, ça change vraiment les choses. D'ailleurs, est-ce que c'est assez inédit qu'il y ait autant de temps, là? Parce qu'il y a effectivement de vraies semaines avant les élections. La dernière fois, c'était
la première fois.
C'est ça, c'est bien sûr. Voilà, parce que nous aussi, on a fini par avoir finalement la mémoire courte. Laurence est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à vos invités. En fait, voilà, moi je me suis posé la question, comment est-ce que M. Macron peut nommer un Premier ministre qui a à la fois la fibre écologiste et la fibre productive ou productiviste? Pour moi, c'est complètement antinomique. Donc en fait, je voudrais qu'on m'explique, parce que pour moi, déjà d'office, je trouve ça très très mal barré, en fait.
Alors, merci beaucoup, Laurence. Moi, j'avoue que j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, d'ailleurs, le Premier ministre. Comment il l'a dit? Quel est son terme exactement, d'ailleurs?
La planification écologique.
Bah, c'est la croissance durable.
Non, ça, oui. Non, mais quand il a cité les trois jambes qu'il voulait, il a dit écologique, il a dit
environnemental,
sociale. Voilà, environnemental, sociale et productive.
Productive.
Et en même temps, elle a raison, Laurence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une jambe productive?
Moi, je comprends que c'est l'industrie verte. C'est la croissance durable contre les décroissants, puisque Emmanuel Macron a créé cette dichotomie entre les vrais écologistes qui voudraient continuer à croître, mais de manière durable, bien pour la planète, contre les amish, adeptes de la lampe à huile. Vous vous souvenez de la formule? Donc c'est ça qu'il veut cranter. Moi, j'entends à travers ça l'industrie de la batterie électrique, par exemple, qui est un des gros enjeux pour la France. Pour les années qui viennent, et puis évidemment le secteur nucléaire,
un
secteur productif, et en même temps dans sa philosophie à lui, et ça se discute, écologique.
Je parlais de l'effet waouh tout à l'heure, Pascal Perrineau, c'est vrai que quand on écoute nos auditeurs, là en tout cas au moment où on se parle, il reste encore du temps, pas un, alors on n'a pas valeur de sondage, mais pas un n'imagine qu'il va se passer quelque chose d'intéressant et que ça risque de régler beaucoup de choses. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils imaginent tous que de toute façon ça ne résoudra absolument rien.
Il faut reconnaître que depuis des semaines et des semaines, la France et la France politique et électorale déprime. Vous avez eu une campagne qui suscitait un très faible intérêt. Plus la campagne se développait, qu'elle soit de premier ou de second tour, moins les Français étaient passionnés. Ce qui est censé être le point d'orgue de la campagne, le fameux débat, jamais on n'avait eu aussi peu d'auditeurs. Et on a battu des records d'abstention et presque de vote blanc et nul. Quand vous faites le total au second tour de l'élection présidentielle des abstentionnistes, des blancs et des nuls, vous êtes, je crois, à 1 million en dessous des 18 millions et quelques électeurs d'Emmanuel Macron. Ça vous... Tout ça, ce sont des indicateurs, en effet, de Français qui continuent à être fâchés avec leur système, fâchés avec leur classe politique, et qui regardent tout ce spectacle avec beaucoup de distance et de pessimisme.
Sur Franceinter.fr, Héloïse nous demande si c'est la nomination et la difficulté d'Edith Cresson qui fait que plus une femme n'a été nommée Premier ministre. En creux, ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a eu des propositions et que, fort de cette expérience-là, les femmes ont reculé, ont dit non? Est-ce qu'on sait ça, Raphaël Baquet?
Ah non, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont reculé. C'est plutôt que la proposition leur a pas été faite. La proposition leur a pas été faite. Alors, il y a aussi une question de génération. Il faut le reconnaître, je le dis avec désolation en tant que femme, mais c'est vrai que, quand même, dans les générations précédentes, les femmes étaient peu nombreuses, très peu nombreuses, et donc le vivier était très étroit. Aujourd'hui, le vivier est beaucoup plus large, quasiment d'ailleurs aussi large que celui des hommes, et c'est aussi cette possibilité qui fait que voilà la nomination d'une femme est plus aisée.
Avec le cuir tanné, j'imagine qu'il faut un cuir tanné.
C'est de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, c'est un job d'enfer, comme disait Michel Rocard. Ouais. Hein. C'est vraiment d'abord un job terrible parce que vous prenez 125 décisions par jour, vous êtes quasi systématiquement impopulaire, vous devez gérer votre majorité, vous devez gérer votre opposition, vous devez gérer votre président de la République, vous devez gérer les médias, c'est vraiment extrêmement difficile, quoi qu'il en soit.
Et vous prenez 125 ans aussi pendant la durée,
ça se voit
physiquement d'ailleurs. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je me posais une question, pourquoi est-ce que M. Macron ne penserait pas à une femme, la meilleure d'entre toutes, qui est Christine Lagarde?
Alors, merci Thierry. On l'a entendu aller et venir, ce nom de Christine Lagarde, qui est peut-être trop précieuse là où elle est, non, Yael Gauze?
Banque Centrale Européenne, c'est fondamental en ce moment. On l'a vu pour le Covid, lorsque la dette a été mutualisée, c'est un des acquis énormes de la période Covid, qui a permis aussi une partie du quoi qu'il en coûte, en tout cas des facilités de paiement côté français. Et puis, c'est une idée que lui aurait soufflé Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce qu'un président réélu peut aller choisir la personne que l'ex-président LR lui conseille de prendre à Matignon? C'est pas un acte d'indépendance suffisant pour Emmanuel Macron, je pense. Mais c'est surtout aussi le profil, un peu comme NKM, on disait.
Oui, c'est le même profil.
Raphaël Baquet, c'est-à-dire une banquière, bon, d'accord, après le FMI, très international, d'accord, mais il y a déjà aussi le sparadrap Rothschild qui colle un petit peu à l'image d'Emmanuel Macron. Donc c'est à mon avis, pas la formule qui sera retenue, mais je peux me tromper.
Allez-y, je crois que par ailleurs, elle-même, vous savez, entre la Banque Centrale Européenne et Matignon, la Banque Centrale Européenne, c'est mieux. Je vous dis les choses clairement.
Ah, oui.
Donc je crois qu'il y a aussi ça qui joue, tout simplement.
Oui.
Donc on n'a pas trouvé le Premier ministre
Je vous promets qu'on cherche.
Mais je vous remercie de chercher encore. Merci vraiment à tous, merci encore pour vos très nombreuses questions. Je voudrais remercier, comme il se doit pour la jolie semaine, Tristan Gratalon et Rémi Sistiaga à la réalisation dit 18-20. Mélissa Delman et Nathalie Poitvin s'occupent de la programmation. Marie-Claude Pinson est à la rédaction en chef. C'est Magda Hervada qui s'occupe du site et de la doc. Ce soir à la technique, il y avait Philippe Duclos et Fabrice Desmas. Merci à tous.